c'est Jean-Pierre. J'aimerais maintenant parler un peu de Martin Blanchard, qui va nous présenter ce numéro spécial et magnifique des ateliers d'éthique. Mais avant de lui passer la parole, je voulais rappeler une ou deux choses à son sujet. Martin, qui est un étudiant du département de philosophie, a été aussi directeur adjoint du CREOM pendant de longues années, je crois 6, mais je n'ai pas fait de calcul de vérification. Et c'est lui qui vraiment a été responsable dès les débuts de cette excellente revue Les Ateliers d'éthique, qui est une revue bilingue consacrée à des questions d'éthique de tout genre, et qui s'est fait au cours de ces années une réputation vraiment excellente, internationale. C'est lui aussi qui a obtenu le financement FQRSC pour cette revue, et ce qui n'est pas une mince affaire, je pense. Donc je voulais profiter pour le remercier pour ces choses-là, mais aussi pour le look magnifique de la revue. Ce que j'aimerais dire, c'est que Martin a exprimé le souhait de se retirer d'ici la fin du cours de cette année de la revue. Alors j'aimerais profiter pour exprimer toute ma gratitude à l'égard de tout ce qu'il a fait et donné au CREOM, à la fois comme directeur adjoint au cours de toutes ces années, comme responsable de la revue, et surtout aussi pour tout ce qu'il a fait au niveau de l'esthétique du CREOM. Je pense qu'il y a une certaine esthétique qui est très marquée, qui a mûri au cours des années. On pourrait faire des études comparatives pour voir comment le style a légèrement évolué, mais Martin donc était le concepteur de nos affiches pendant toutes ces années, et c'est quelque chose qui vraiment est apprécié par tout le monde. Je ne sais pas comment on va s'organiser maintenant, ça va être un désastre probablement, mais voilà, je voulais remercier Martin pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné au CREOM, et avec cela l'inviter à venir parler de ce dernier volume magnifique lui aussi.
Vous m'excuserez si j'ai des notes avec moi. C'est un moment de grande émotion et je ne croyais pas que c'était possible de m'en tirer sans avoir des notes pour dire ce que j'ai à dire. C'est un moment de grande émotion pour moi, premièrement, parce que ce numéro, le numéro des 10 ans du CREOM, est le résultat d'une collaboration exemplaire, patiente, efficace, entre la directrice de la revue, le directeur précédent de la revue, les membres du comité éditorial qui sont aussi les responsables d'axe du CREOM et tous les auteurs qui ont écrit les textes dans cette revue, dans ce numéro. Cette collaboration reflète un peu pour moi, et reflète beaucoup en fait, le contexte de la naissance de la revue, je me rappelle, en 2006, lorsque, avec des chercheurs postdoctorants, doctorants et des chercheurs invités, et aussi le personnel du CREOM, on s'est dit, pourquoi pas une revue? Et à l'époque, c'était simplement de se donner un instrument pour, finalement, rendre publique la recherche qui se fait au CREOM. Jamais nous avions l'intention de nous rendre où nous en sommes aujourd'hui. Et j'en suis assez fier, parce que ça s'est fait naturellement, dans un esprit collaboratif, collégial, sans que on ait voulu consciemment ce moment. Ben, ce moment est devant nous maintenant. C'est aussi un moment de grande émotion, car il célèbre 10 années de recherche en éthique, dont j'étais un témoin privilégié. Et je tiens à souligner que l'un des plus grands privilèges que j'ai eu, qui m'a marqué le plus, a été de travailler avec Daniel. J'ai beaucoup appris de ces années de travail, et je me suis en plus senti toujours l'égal de Daniel, alors qu'on sait que dans l'université, il y a une certaine hiérarchie qui est peut-être invisible, mais qui est extrêmement présente. Je pense que la personne de Daniel est pour beaucoup dans ce qui est devenu le centre, un centre international de premier plan qui reflète son esprit d'ouverture, sa curiosité insatiable et sa volonté inébranlable de traiter tout un chacun comme un égal. C'est un peu ce qui est devenu le centre et c'est le prolongement finalement d'une personne. En deux mots, il n'y a pas que des hypothèses et des théories en éthique, il y a aussi des personnes. Et je chéris ces heureuses années où j'ai côtoyé des personnes admirables qui ont fait la réputation actuelle du Centre de recherche en éthique. C'est aussi un moment de grande émotion parce que ce numéro se tourne résolument vers l'avenir. mais d'une manière qui m'a agréablement surpris, tellement elle concorde avec mes propres orientations, actuelles et futures. J'ai eu à réviser tous les textes, j'ai eu à les reprendre, à les regarder, à les mettre en page, donc j'ai lu la revue avant vous. Et tous les articles mentionnent à divers degrés l'importance pour la recherche en éthique de prendre au sérieux la recherche empirique. Et je dirais même plus, comme certains personnages de bande dessinée, l'importance pour la recherche en éthique de se concevoir non pas comme une activité purement intellectuelle, mais comme une réalité qui joue un rôle concret sur le terrain des politiques et des pratiques publiques. Vous allez retrouver ça dans tous les articles de cette revue, de ce numéro. Et qui dit réalité, dit aussi circonstances et impact de la recherche. Et je rajouterais que bon nombre de ces perspectives mènent plus ou moins directement à un engagement de l'intellectuel dans la vie de la cité. Un engagement dont ma propre expérience m'a appris qu'il est impossible d'en maîtriser toutes les ficelles. Car dans les choses pratiques, il faut travailler avec les autres. Et si on peut discuter avec les autres, on ne peut pas les contrôler. Et ce numéro mène à ce que je considère comme étant la plus grande ouverture d'esprit qui soit, l'ouverture à autrui. Et j'ai déjà hâte de le relire. Je suis sincèrement ému de la qualité de ce numéro et des perspectives mises de l'avant comme avenir de l'éthique. Et je voudrais remercier, un grand merci à toutes les personnes qui l'ont rendu possible. Je voudrais dire un dernier mot sur l'avenir de la revue. Ce n'est pas moi qui verra à prolonger cet avenir. J'ai depuis un certain temps orienté mon action sur le terrain de la lutte pour le droit au logement. Et il n'est même plus possible de coordonner à la fois une revue qui a pris cette importance et de continuer le travail que je fais. Mais j'ai la fierté de constater que l'avenir est déjà inscrit dans le code génétique de la revue depuis son tout début. La revue est depuis toujours entièrement téléchargeable gratuitement sur Internet et c'est une disponibilité totale que nombre de revues académiques ont aujourd'hui beaucoup de peine à implanter. J'ai assisté à des rencontres, des colloques de revues qui cherchent un moyen de rendre la revue disponible et qui ont toutes les peines du monde à le faire. Or, c'est le cas depuis son tout début pour les ateliers d'éthique. Et je suis fier de dire que la revue a toujours su redonner gracieusement et sans compter ce que le réseau public québécois d'éducation a rendu possible. Un lieu d'échange des meilleures recherches en éthique, un lieu fondé sur la collégialité, sur le travail commun et non pas sur la recherche du profit qui ensuite peut poser problème lorsqu'on cherche à avoir une ouverture. Ce qui attend la revue dans les prochaines années est difficile à entrevoir et j'oserais même pas donner des pistes de réflexion puisque je veux quand même laisser cet avenir dans les mains de ceux qui l'apprendront. Mais permettez-moi de dire quand même qu'une réflexion s'impose peut-être sur la place du public non universitaire dans cette revue. Peut-on faire participer les personnes qui ne sont pas des universitaires à l'élaboration d'une recherche de première importance en éthique? Il y a des disciplines qui ont fait cette ouverture-là. Je pense à l'archéologie, je pense à l'astronomie, je pense à des disciplines où on a des amateurs qui finalement viennent à faire partie de la recherche fondamentale et de la recherche de premier plan. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose en éthique? Je laisse la question ouverte. Et on peut l'enterrer après, sans problème. Mais au final, je suis persuadé que c'est un travail en équipe qui guidera les rênes de la revue. Alors, ce que je souhaite, c'est une longue vie aux ateliers de l'éthique.
Merci Martin, c'était émouvant, pas seulement pour toi mais pour tout le monde. Et mon rôle s'arrête là ce matin, je vais passer la parole à Peter pour maintenant faire place à l'avenir de l'éthique.
Merci beaucoup.